France Info.
Bonsoir à tous, les informés de France Info, à la radio, à la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Bien sûr, sur vos ordinateurs, vos tablettes, franceinfo.fr, pour débattre de l'actualité politique du week-end, de la semaine. J'accueille avec plaisir Brigitte Boucher. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Pierre.
Journaliste sur la chaîne LCP, présentatrice de l'émission Politique du matin, 8h30, 9h30. François Hernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du quotidien La Croix, Hervé Gauthier. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef au service économie et sociale de France Télévisions. Et puis bonsoir Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, Figaro Magazine, en charge du Figaro Vox. Alors au sommaire de ces informés de France Info ce soir, la mobilisation anti-Macron hier à Paris comme en région, 250 000 manifestants selon la CGT, 93 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Petit coefficient de marée raille le Premier ministre alors que Gérard Collomb dénonce, lui, la passivité des manifestants face aux casseurs, des propos jugés irresponsable. Dans ces informés, nous remonterons dans le temps. En 1968, le Premier ministre Georges Pompidou négociait avec les partenaires sociaux les accords de Grenelle. 50 ans plus tard, je vous demanderai si le dialogue social a changé depuis 68, changé en bien ou changer en mal. Et puis nous parlerons des mystères de la voix qui porte des émotions, la voix qui informe, la voix des grandes signatures de la radio, Pierre Bellemare, Jacques Chancel, Pierre Bouteiller, Jean-Christophe Averty, Jean-Louis Foulquier. Et je vous demanderai si la radio conserve encore tout son pouvoir à l'heure du tout image, à l'heure du tout numérique. Et d'abord, dans ces informés de France Info, on revient sur cette journée de mobilisation qui devait être, je cite, une marée populaire des associations, des syndicats, des partis de gauche, marée de petits coefficients, marée pour rien, disent certains. Ou est-ce le début du commencement d'une renaissance de l'union des gauches dans le JDD? Édouard Philippe, le Premier ministre, explique « La démocratie, c'est le droit à l'expression de tous, mais c'est aussi le respect des représentants du peuple. Je respecte parfaitement et je suis déterminé », dit le Premier ministre. Autant dire que, François Hernenwein, la rue peut gronder, le gouvernement continue avec l'appui du Parlement.
Mais il a raison d'envisager les choses comme ça, d'autant plus que, ça a été évoqué d'emblée, la manifestation n'a pas atteint les objectifs de ses organisateurs.
C'est pas la première depuis l'automne.
Non, mais il y a des figures de rhétorique qui reviennent sans cesse. On approche de la forte mobilisation. Ils ont pris leurs désirs pour des réalités et c'est déceptif. Si on compare leurs intentions et le résultat obtenu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grogne sociale en France, mais ça veut dire une chose. Aujourd'hui, l'amalgame ne prend pas. La contestation, il y avait 60 organisations qui appelaient au rassemblement. 60 organisations, ça ne fait pas un programme, ça fait 60 points de vue sur une situation donnée. Et si on devait point par point examiner leurs points d'accord, on aurait bien du mal à trouver le lieu du consensus.
Brigitte Boucher.
Je pense qu'effectivement que c'est un échec, cette marée populaire. Il y a entre 93 000 et 250 000 personnes dans la rue, un
échec
peu partout
des casseroles
en France.
Aussi,
Jean-Luc Mélenchon avait appelé à déferler à 1 million sur les Champs-Élysées, et ce depuis le mois de novembre et la lutte contre les ordonnances, contre la loi travail. On voit bien que depuis des mois et des mois, il essaye de mobiliser et qu'il n'y parvient pas. Il n'y a ni convergence des luttes, ni front populaire, comme il aimerait le dire, puisque toutes les organisations de gauche, même s'il y en a une soixantaine, le PS n'était pas dans la rue, donc il n'y a pas de Front Populaire, et puisqu'on va parler de mai 68 tout à l'heure, il n'y a pas non plus de Grenelle, des accords de Grenelle à l'arrivée et au bout de ces échanges. C'était plutôt une alliance de perdants, avec d'un côté la France Insoumise qui essaye de jouer un troisième tour social, et puis de l'autre une CGT qui essaie de se remettre dans le jeu et qui du coup rompt avec cette scission entre le PCF et la CGT pour revenir dans le combat politique.
Alexandre Devecchio, alliance de perdants.
Oui, je crois que c'est surtout l'échec d'une stratégie, d'une vieille stratégie qui correspond plus au monde d'aujourd'hui, qui est celle de l'union de la gauche. Je pense que la France insoumise...
L'union des gauches, maintenant.
L'union des gauches, mais la France insoumise hésitait justement entre... aller au peuple, hein, c'était comme ça qu'il l'avait théorisé, et faire l'union des gauches. Je crois qu'il a plutôt choisi la seconde solution, en passant par des corps intermédiaires, les syndicats, etc., et qu'il n'a pas du tout su s'adresser à une autre France qui est en colère, qui est plus silencieuse, qui n'a pas forcément de syndicats pour la représenter, et qui aurait pu être sensible à certaines causes, celle des hôpitaux notamment. Si on avait mieux expliqué que l'enjeu véritable de la réforme de la SNCF, c'était pas seulement le statut des cheminots, mais c'était aussi éventuellement la privatisation qui allait se traduire possiblement par des lignes de train en moins. Mais tout ça, ils ne l'ont pas fait, et on voit bien que l'espace d'une gauche ou même d'une gauche radicale est finalement assez réduit en France, et que l'opposition à Macron n'est pas là.
Hervé Gauthier, est-ce que tout simplement les Français, les salariés n'ont plus aussi les moyens de descendre dans la rue? Ça coûte des journées de grève?
Oui, enfin, là, en l'occurrence, c'était un samedi, donc c'était pas forcément extrêmement déterminant. Moi, je pense que c'est surtout, enfin, je viens d'entendre tout ce que viennent dire les autres invités. Je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. D'abord, c'est objectivement, effectivement, un échec. Si on prend, ne serait-ce que manifestation à Paris, puisqu'en l'occurrence, on a le cabinet Occurrence qui nous donne des chiffres médias, il y avait moins de 32 000 personnes dans la rue, alors qu'il y en avait près de 40 000 lors de la fête à Macron le 5 mai, qu'il y en avait près de 50 000 quand il y avait la manifestation des seuls fonctionnaires et cheminots. Donc, on voit bien qu'effectivement, non seulement ça prend pas, mais ça va même plutôt en reculant. Et tout le monde a perdu dans cette affaire. Et je pense que ceux qui ont le plus perdu, c'est la CGT, qui a pris quand même un énorme risque pour essayer de se relancer en, pour la première fois, prenant l'initiative d'aller manifester, pour la première fois depuis qu'ils sont découplés du Parti communiste français en 1996. Donc, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, ils sont allés manifester avec des partis de gauche. Et tout ça pour rien, quoi. Et donc là, on voit pas très bien comment eux-mêmes peuvent se relancer. Et je pense que ça augure, à mon avis, d'une crise en interne, et que Philippe Martinez va avoir des choses à dire aux militants.
On va y revenir dans un instant avec vous, Brigitte, avec vous, François Hernenwein, Alexandre, Hervé, Gauthier. Mais avant cela, à 20h10 sur France Info, c'est l'heure de l'info avec vous, Romain Desec.
On commence avec la joie des handballeurs montpelliérains. Ils viennent de remporter la deuxième Ligue des champions de leur histoire, 15 ans après la première. Montpellier s'est défait de Nantes en finale, 32-26. Un podium 100% français puisque le PSG a obtenu la troisième place, performance historique pour le handball tricolore. Il ne nous comptera plus ses formidables histoires. Pierre Bellemare nous a quittés ce matin à 88 ans. La France perd une figure populaire au sens le plus noble du terme. Les mots d'Emmanuel Macron. Énormément d'hommage également du PAF, le paysage audiovisuel français, pour celui qui a révolutionné la radio et la télé, selon Michel Drucker. Un peu moins de perturbations sur vos trajets SNCF ce soir et surtout demain pour le début du 12e épisode de grève. 2 TGV sur 3 circulent, 2 intercités sur 5, 3 transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. Les doggy bags obligatoires au restaurant, l'amendement a été voté par l'Assemblée nationale. Ce sera progressif. Objectif, lutter contre le gaspillage alimentaire. En revanche, les députés ont rejeté l'interdiction ou la limitation des pubs à destination des enfants concernant les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Certains élus en appellent plutôt à la responsabilité des parents. Christopher Froome entre dans la cour des grands. Il remporte son premier tour d'Italie et fait désormais partie des 7 cyclistes vainqueurs des 3 grands tours. Reste à savoir s'il participera au Tour de France puisqu'il fait l'objet d'une enquête après un contrôle antidopage anormal.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Alors dans ce débat qui est consacré à la manifestation d'hier, on va faire une petite pause parce que je vous ai vu réagir au titre de Romain Desec il y a quelques instants concernant les doggy bags obligatoires dans les restaurants. Alexandre Devecchio.
Non, mais voilà, c'est une nouvelle manière de faire de la politique, totalement microscopique, je trouve. Je suis pas sûr qu'il fallait légiférer là-dessus, parce qu'il faut
comme
plutôt
sur les pains au chocolat,
faire
quoi.
Confiance au bon sens des gens. Quoi. Ça me paraît plutôt ridicule.
Rapidement, avec votre choix, on va revenir à la CGT.
Il y a quand même une raison légale à ça, c'est que effectivement, jusqu'à présent, les restaurants étaient souvent réticents à faire des doggy bags, ouais. Et donc c'était du gâchis, parce que si jamais la personne qui avait pris le doggy bag était malade ou s'empoisonnait après, le restaurant pouvait être tenu pour responsable.
La chaîne du froid. On revient à cette manifestation, cette marée humaine qui n'a pas eu lieu. Sur France Info et France Inter, ce midi, Julien de Normandie, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, affirmait lui aussi que ces grèves et manifestations ne changeront rien. L'objectif du gouvernement, dit-il, et du chef de l'État, vous allez entendre, c'est de transformer le pays.
Il faut toujours différencier le plus grand respect pour tous ceux qui vont manifester, parce que encore une fois, la démocratie, dans sa splendeur, c'est le droit d'aller manifester,
de ne pas être d'accord,
et les postures politiques. Après, l'autre point qui, à mes yeux, est fondamental, c'est que c'est toujours plus simple d'aller dans le sens de la marée. Aller transformer le pays, et c'est le mandat que nous avons eu, c'est le vote populaire qui nous a demandé de transformer ce pays. Eh bien, s'il faut le faire face au vent, face aux marées, nous le ferons. Le président de la République, d'ailleurs, a été très clair là-dessus. Nous ne lâcherons rien.
François Hahnenwein, le gouvernement qui ne lâche rien, une fois de plus répété.
Oui, on a l'exemple des éléments de langage, la parole qu'il faut délivrer quand la contestation, même faible, existe. Donc ça, ce sont des figures de rhétorique. Mais votre question tout à l'heure sur la journée de samedi, elle en éludait, me semble-t-il, une autre. Le grand ordonnateur de tout ça, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et franchement, à sa place, je me poserais des questions sur sa stratégie, ses perspectives politiques. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas fédératrice. Donc, sa prétention à incarner...
Pour la jeunesse, surtout.
Sa prétention à incarner la conduite du changement, à mon avis, est une illusion et conduit tous ceux qui viennent en satellite lui apporter leur soutien dans une impasse.
La jeunesse a effectivement voté en masse pour Jean-Luc Mélenchon et je pense qu'aujourd'hui elle ne le suit pas. Bien que dans la contestation de Parcoursup notamment, il y a un petit noyau dur de radicaux du côté de la gauche, mais pas au-delà.
Donc il arrive pas message de Jean-Christophe Ruffin, par exemple.
Effectivement. Et puis il y a cette division, et vous le soulignez, entre Jean-Christophe Ruffin et François Ruffin. Les mélange
voilà,
maintenant. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon qui peut créer aussi des tensions en interne. J'entendais là Julien de Normandie qui disait il faut entendre quand même cette contestation. Moi, j'ai trouvé que les propos d'Édouard Philippe étaient peut-être un tout petit peu déplacé. Petit coefficient de marée, ça a un côté assez méprisant et assez arrogant. Et on sait que souvent les contestations qui sont faites sont de cet ordre-là, c'est de dire que le gouvernement aujourd'hui est très sûr de lui, est très arrogant et qu'il avance sans faire attention.
Mais il y a eu plein de petites phrases du chef de l'État qui n'ont pas provoqué quand même de grands mouvements de foule.
Non, mais prudence quand même à traiter tout le monde. Il y a le président des riches qui s'est quand même imposé aujourd'hui dans l'esprit de certains Français. Il y a le sentiment pour certains qu'il y a une politique qui est injuste, qui est menée. Je pense qu'il faut entendre aussi toutes les voix. Il faut traiter aussi les uns et les autres. Et on le voit dans le dernier sondage IFOP qui a été publié dans le JDD. 41% d'opinion favorable pour Emmanuel Macron, qui perd 3 points. Donc attention quand même à ne pas trop cliver.
Hervé Gauthier, est-on dans un climat social tendu ?
Non, enfin, c'est oui difficile de répondre à la question. Oui. Ça dépend si on compte en nombre de troupes ou si on compte sur les contenus et la manière avec laquelle les uns et les autres réagissent. Je pense qu'effectivement, tout le monde a tort. Le gouvernement a tort de traiter la contestation sociale qui existe quand même, même si il n'y a pas beaucoup de manifestants, mais qui existe quand même.
Par la fermeté et par le Parlement ?
Oui, par une forme de mépris quand même, malgré tout. Effectivement, je trouve que la belle phrase sur le coefficient de marée, c'est très drôle. Hein, franchement, c'est vrai que c'est beaucoup d'humour. Et Édouard Philippe a beaucoup d'humour, mais c'est vrai que ça a quelque chose d'un peu méprisant. Je pense qu'effectivement, de l'autre côté, il n'y a pas d'opposition à gauche solide. La France Insoumise, on vient d'en parler. La CGT, j'y reviens, qui a échoué lors de la première loi travail en 2016, la loi El Khomri, qui a échoué à nouveau à mobiliser sur la deuxième loi travail l'été dernier, échoue à mobiliser à nouveau hier et qui est probablement sur le point de perdre la bataille du rail sur la SNCF. Il y a un problème de méthode et un problème de contenu et dans la manière de contester.
Poser la question du climat social parce que la présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'était interrogée sur cette question. C'était ce matin dans l'émission d'Europe 1 et CNews, l'émission politique.
On est dans un climat social qui est tendu, mais je crois que ce qui discrédite aujourd'hui
ce type de manifestation, c'est les dérapages vers l'outrance, le saccage et la violence. Et je crois qu'aujourd'hui, le pays ne se reconnaît pas dans ce discours qui attise la haine contre les institutions et contre la police, contre la justice, contre tous ceux qui font régner l'ordre. L'ordre doit revenir dans la société française.
Alexandre Vecchio, là, c'est ciblé Jean-Luc Mélenchon.
Une fois n'est pas coutume, je suis totalement d'accord, je crois, avec Valérie Pécresse. Il y a effectivement une exaspération dans le pays, mais aussi une demande d'ordre. Je crois que la société, par exemple, aussi est exaspérée par ce qui se passe à Marseille que par le climat social. Et je crois qu'effectivement, l'opposition incarnée par Jean-Luc Mélenchon n'est peut-être pas la bonne. Je crois pas que ça vienne de sa personne, je crois que ça vient plutôt de son alliance. Il a cherché à faire alliance avec les zadistes, avec les gens qui dégradaient les universités. Or, je crois qu'il y a toute une partie de la population qui est en quête de protection, mais qui ne se reconnaît pas dans cette gauche radicale-là. Il faut dire aussi qu'il a eu l'aide du président de la République, qui a choisi très nettement aujourd'hui ses adversaires. Il y a un jeu de rôle évident entre les deux. Emmanuel Macron se dit finalement que Jean-Luc Mélenchon est un adversaire trop excessif et que c'est finalement pas un adversaire très dangereux, un peu comme Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, qui pourra être battu parce qu'il ne pourra pas fédérer 50% de la population. Donc je crois que les deux se sont choisis mutuellement, parce que de l'autre côté, pour Mélenchon, c'est flatteur d'avoir le président de la République en face de lui, mais ça ne durera pas tout le quinquennat, et je pense qu'il y a un mouvement, peut-être une droite illibérale en construction, et qui sera le véritable adversaire d'Emmanuel
Macron. Ce duel, aussi. Effectivement, il n'y a pas vraiment d'opposition en face. Il y a un duel qui est installé aujourd'hui. Ce que dit Valérie Pécresse, en clair, c'est que la violence que peut avoir dans ses propos Jean-Luc Mélenchon, elle peut mener par peut-être un débordement de la base à une forme de radicalité qu'on peut voir dans ses manifestations. Il y a les black box notamment. Il y en avait 1200 le 1er mai. Et cette forme de radicalité-là, il faut aussi la prévenir et faire attention à ça. Et cette violence de parole, elle peut mener à cette violence sur le terrain.
Un dernier mot.
Il faut pousser plus loin le raisonnement d'Alexandre. Le problème se pose avec Jean-Luc Mélenchon, mais il se pose de la même manière avec Laurent Wauquiez. Si on pense qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez incarne une opposition crédible à la stratégie d'Emmanuel Macron, au choix d'Emmanuel Macron, je pense qu'on commet une erreur.
Alors, on va continuer à parler de ces manifestations, des déclarations autour de ces manifestations, notamment les déclarations du ministre de l'Intérieur hier après-midi. Avant cela, à 20h20 sur France Info, l'info, c'est avec vous, Romain Desecq.
Soyez prévoyants si vous prenez le train à partir de ce soir. 12e épisode de grève pour deux jours. D'après la direction, les perturbations sont les plus faibles enregistrées depuis le début du conflit. 2 TGV sur 3 circulent, 2 Intercités sur 5, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. En Italie, Giuseppe Conte renonce à être Premier ministre. Il avait été désigné par le mouvement 5 étoiles et la Ligue pour diriger le pays, mais il jette l'éponge. Annonce faite juste après sa rencontre avec le président italien. Ce dernier devait approuver la nomination des ministres. De Jean-Pierre Foucault à Pierre Lescure, en passant par Stéphane Bern ou encore Cyril Hanouna, l'ensemble du paysage audiovisuel français rend un dernier hommage à Pierre Belmar. L'homme de radio, de télé, nous a quittés ce matin à 88 ans. C'est lui qui avait notamment apporté le prompteur pour les présentateurs télé. La France perd une figure populaire au sens le plus noble du terme, a réagi Emmanuel Macron. Roland Garros, grosse surprise chez les dames, élimination de la tenante du titre, Yelena Ostapenko, premier tour. Chez les Français, ça passe pour Gaël Monfils, Lucas Pouille, Alizé Cornet et Corentin Moutet. Et puis le footballeur égyptien Mohamed Salah tente de rassurer son peuple tant bien que mal. L'attaquant de Liverpool, sorti sur blessure hier en finale de la Ligue des Champions, se dit confiant sur sa participation au Mondial. Salah est la vedette des Pharaons qui participent à leur première Coupe du Monde depuis 28 ans.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu. Et dans ces informés de France Info, on continue à parler de cette journée de mobilisation au travers des déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. C'était hier après-midi, au micro de nos confrères de BFM Télé. Vous allez l'entendre, le ministre de l'Intérieur évoque la passivité des manifestants face aux casseurs, ce qui a provoqué un certain nombre de réactions par la suite.
Ce qui est étonnant, par contre, c'est que des Black Blocs puissent intervenir au milieu d'une foule qui finalement ne réagit pas. Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe.
Hervé Gauthier, réaction à ces propos du ministre de l'Intérieur qui demande aux manifestants de ne pas être passifs, de ne pas être complices des Black Blocs et des casseurs.
C'est difficile de réagir. On va essayer de nous journalistes de pas tomber dans la polémique politicienne justement. Mais enfin, des débordements dans les manifestations.
Ça surprend,
il y en a toujours eu. On se rappelle des manifestations des dockers, des manifestations des mineurs. Et donc il y a toujours eu des débordements. Les Black Blocs, c'est pas un phénomène nouveau non plus. On se rappelle en 2001, en marge du G8 à Gênes, ils avaient tout cassé dans la ville. Il y avait même eu un mort. En revanche, c'est vraiment la première fois qu'on entend un ministre de l'Intérieur interpeller les manifestants en leur disant que c'est à eux d'intervenir face au Black Bloc. Alors, on ne sait pas très bien d'ailleurs à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux manifestants? Est-ce qu'il s'adresse au service d'ordre de la CGT, par exemple, qui est quand même réputé justement pour son organisation et son sérieux? Mais enfin, le service d'ordre de la CGT, c'est des militants qui sont volontaires, qui sont bénévoles pour le faire, mais c'est pas des agents de sécurité, et c'est encore moins des policiers. On a quand même l'impression d'un ministre de l'Intérieur qui doit incarner la fonction régalienne de l'ordre, et notamment de l'ordre dans une manifestation, qui a l'air de renoncer à cette fonction et à représenter la police.
Alors, parmi les réactions, Benoît Hamon qui dénonce des propos scandaleux, Alexis Corbière qui demande au ministre de démissionner s'il n'est pas capable de garantir le droit de manifester, et puis c'était à la mi-journée dans l'émission Le Grand Jury RTL sur LCI, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui estime que le ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur de sa fonction.
Mais vous imaginez une famille qui va manifester à qui on dit « mais maintenant c'est vous avec votre poussette qui allez vous battre contre les Black Blocs ». Non mais c'est irresponsable. Ensuite, les décisions devront être prises par d'autres que moi et je n'ai pas à appeler à quoi que ce soit. Je dis simplement que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui ne se montre pas à la hauteur de la fonction qu'il occupe et qui est celle de la protection des Français, de tous les Français, y compris les lycéens, y compris les manifestants.
François Hernenwein, une question qui devient récurrente maintenant. Est-ce que Gérard Collomb est l'homme de la situation? Place Beauvau.
Gérard Collomb a un problème.
De communication.
Et quelques atouts dans sa poche quand même. Il a été choisi par Emmanuel Macron et globalement, il fait le boulot. C'est-à-dire que, comme ministère de l'Intérieur, il montre la fermeté indispensable qu'on attend de l'occupant de la place Beauvau. Et à ces titres-là, il est même assez exemplaire. Le problème, c'est ce qu'on vient d'entendre. Alors, je voudrais quand même dire à Olivier Faure, je ne conseillerais à personne d'aller manifester avec une poussette. Même pas le lieu privilégié pour les promenades du samedi ou du dimanche. On peut aller au but de Chaumont ou ailleurs, mais pas forcément en manifestant avec une poussette. Mais cela dit, les propos du ministre de l'Intérieur sont quand même assez inquiétants. Et par extrapolation, est-ce qu'il demande aux agriculteurs de contrôler les agriculteurs qui commettent des dégâts lors des manifestations agricoles? C'est quand même un standard de la vie manifestante en France. Est-ce qu'il demande aux hospitaliers de protester contre ceux qui bloquent les établissements hospitaliers, etc. Est-ce qu'il demande aux autres de faire le boulot de la police? Ça, c'est la question posée par son...
Et il met le droit de manifester dans la balance, quand même.
Non, mais on a quand même face au ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, de la protection des Français. Enfin, c'est quand même étonnant d'avoir un ministre qui vient commenter, en plus, quelque chose. Il est censé être dans l'action, c'est à lui de faire, c'est pas à lui de commenter ce qui se passe ou ce qui se voit dans les manifestations. On lui demande plutôt d'agir dans ce sens. L'idée, c'est peut-être de dire, en fait, derrière tout ça, à la CGT ou à la France Insoumise, attention, si vous ne savez pas organiser des manifestations qui se déroulent dans le calme, eh bien, peut-être qu'il faudra plus en organiser. Et si on va plus loin, peut-être qu'un jour, il faudra interdire ces manifestations parce qu'il y aura trop de Black Blocs qui se seront infiltrés dedans. Et donc, moi, j'y vois une petite mise en garde de l'Intérieur sur, effectivement, le droit à manifester auquel vous faisiez référence à l'autre chose.
Non, mais on pourrait même extrapoler plus loin. Par exemple, à Marseille, les règlements règlement de compte à la Kalachnikov? Est-ce que les gens doivent sortir leurs armes et se défendre? C'est quand même paradoxal. On a l'impression d'un appel à la légitime défense de la part du ministère de l'Intérieur. Donc, moi, je ne sais pas quelle était l'intention, mais ça donne le sentiment que l'État est extrêmement impuissant et n'arrive aujourd'hui plus à protéger les gens. Et c'est pas la première fois qu'on le sent chez le ministre de l'Intérieur. Quand il y a des attentats, il nous explique « Ah bon, il était fiché S, mais on n'avait pas prévu qu'il pourrait se radicaliser. » Je me rappelle de cette phrase qui m'avait quand même surpris. Et on a l'impression, oui, effectivement, que l'insécurité est devenue un phénomène météorologique quasiment et que l'État ne peut rien faire. Alors que justement, la fonction du ministère de l'Intérieur, c'est d'incarner le régalien. Et là, pour le coup, Gérard Collomb ne le fait pas du tout.
On va continuer à parler de cette petite phrase de Gérard Collomb dans la deuxième demi-heure des Informés. C'est dans un instant, après la météo, après l'info sur France Info. Restez avec nous. On parlera également aussi de ces grandes voix radio qui nous accompagnent. Il est 20h27 sur France Info.
France Info Trafic avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets, en ligne ou en agence. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
On fait un point route en ce dimanche soir au PC Mobilité de Radio France avec vous, Fiona Mogadam. Où se trouve la principale difficulté en ce moment?
Écoutez, il y a un accident sur l'A9 au niveau de Perpignan, direction de l'Espagne. Soyez prudents dans ce secteur. Autre accident dans les Hauts-de-France, cette fois sur l'A16 en direction de la Belgique. Vous roulez sur une seule voie dans le secteur d'Arry. Sinon, ça bloque en ce moment sur l'A7 en direction de Lyon quand vous passez Albon. Et puis en Ile-de-France, l'A86 intérieure est toujours chargé entre Choisy-le-Roi et Fresnes. Ça roule par à coup également sur l'A4 de Logne jusqu'à la porte de Charenton et sur l'A6 de Lys jusqu'à la porte d'Orléans.
Ah, tout à l'heure, on fait un point météo à présent.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 280 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
En dehors de la façade atlantique et de la Corse, des orages toujours ponctuellement puissants sont possibles en toute région en fin d'après-midi et en première partie de nuit prochaine. Demain, comme ces derniers jours, l'ambiance va rester instable et lourde. En matinée, des averses vont déjà émailler la plupart des régions, sauf de la Bretagne aux côtes normandes et des Hauts-de-France à l'Alsace. Des averses s'accompagnant de coups de tonnerre dès le milieu de la matinée. Mais c'est surtout passé la mi-journée que les nuages vont atteindre leur développement vertical maximal et prendre le plus de puissance, avec pour l'après-midi et la soirée une possibilité d'orage fort pratiquement sur l'ensemble du pays, accompagné de leur lot de fortes averses, parfois de grêle et de puissantes rafales, un temps instable qui va également concerner la journée de mardi.
Merci d'avoir choisi France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec Augustin Rivet.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Un nouvel épisode de grève ce lundi à la SNCF. Julien Pasqualini, les perturbations seront un peu moins marquées que lors des précédentes journées d'action des cheminots.
Il y a de moins en moins de grévistes, a déclaré le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vichra, tout en reconnaissant que la mobilisation restait importante chez les conducteurs. Pour demain lundi, côté TGV, comptez 2 trains sur 3 en moyenne, à l'exception de l'axe Est, où là le trafic sera quasi normal. Prévoyez également 3 trains Ouigo sur 4. Il y aura 2 intercités sur 5 en circulation, 1 TER sur 2 et en région parisienne, 3 Transiliens sur 5. Toujours en Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A. En revanche, il y aura 1 RER sur 2 en moyenne sur les lignes B, C, D et E. Compte tenu du match de foot France-Irlande qui se joue demain soir au Stade de France, la SNCF invite les supporters à anticiper au maximum leurs déplacements. Enfin, pour les trains internationaux, le trafic devrait être quasi normal sur Eurostar et Thalys.
Julien Pasqualini et les sénateurs examineront à partir de mardi le projet de réforme de la compagnie. Un pneu qui éclate, voilà la piste la plus probable selon les enquêteurs pour expliquer le drame d'hier soir sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Un autocar qui s'est couché sur les voies 3 morts, 11 blessés graves. Le véhicule revenait de Lyon. Les occupants avaient assisté à la demi-finale du top 14 de rugby. Un hommage sera rendu aux victimes avant la finale samedi prochain. Il avait l'intelligence du compteur cultivé et empreint de compassion. Voilà comment Philippe Labro décrit Pierre Belmar, mort hier, figure historique de la télévision française, importateur en France du téléachat, mais aussi animateur notamment de La Tête et les Jambes, également derrière la création de la caméra invisible. Il avait 88 ans. Celui qui aurait dû être le chef du gouvernement italien renonce à son poste ce soir, Giuseppe Conte, qui acte l'impossibilité de s'entendre avec le président Sergio Mattarella. La crise politique continue en Italie. Giuseppe Conte qui soumettait ce soir à la présidence une liste de ministres pouvant former son gouvernement. Grenoble retrouve la Ligue 2 de football. Les Isérois tombeurs de Bourg-en-Bresse dans les matchs de barrage et par conséquent Bourg-en-Bresse descend en national. La victoire de Montpellier en Coupe d'Europe de handball. Ligue des champions remportée 32 à 26 contre Nantes. Le tennisman Gaël Monfils qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, tout comme Lucas Pouille, Alizé Cornet et le jeune Corentin Moutet. Et puis Christopher Froome, vainqueur final du Giro, le Tour d'Italie, troisième grand tour d'affilée pour le Britannique. 20h33 sur France Info, Pierre Neveu et les informés.
Les informés, Pierre Neveu.
Les informés de France Info, la deuxième partie avec nos informés du soir, Brigitte Boucher, la chaîne parlementaire François Ernenwein, Lacroix, Hervé Gauthier, France Télévisions et Alexandre Devecchio, Le Figaro Vox ont parlé il y a quelques instants avant la coupure météo, avant la coupure info, eh bien du rôle du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ce petit dérapage médiatique hier après-midi sur les manifestations. Il y a eu aussi cette semaine, on a reproché au ministre de l'Intérieur des gardes à vue de lycéens. Alexandre Devecchio, c'est dur d'être le premier flic de France quand on succède, par exemple, à Bernard Cazeneuve, à Manuel Valls, à Nicolas Sarkozy, qui incarnait peut-être différemment la fonction.
Oui, c'est vrai qu'il l'incarnait avec force. Après, je pense que c'est dur dans tous les cas, puisqu'on est dans un pays qui connaît une insécurité quasiment systémique, à mon avis, depuis plusieurs décennies. Jusque-là, ça profitait au ministère d'Intérieur, au ministre de l'Intérieur, qui pouvait apparaître comme un homme d'ordre. C'est pas le cas de Gérard Collomb, qui me fait penser un peu Gérard Collomb à François Mitterrand, qui disait on a tout essayé contre le chômage. On a parfois l'impression que c'est ce que nous dit Gérard Collomb et c'est ce que nous dit plus généralement aussi le gouvernement et le président de la République. Ils ont l'air assez mal à l'aise avec le régalien en règle générale et on a le sentiment d'une grande impuissance et expliquer aux Français qu'il va falloir qu'ils s'y fassent. Alors c'est vrai que malheureusement on s'est habitué aux voitures qui brûlent, aux parpaings sur les pompiers, au terrorisme, au black bloc qui défonce tout, mais je crois que pour le coup il y a une exaspération dans le pays sur cette question et c'est aux politiques de la régler.
Pour ne pas faire qu'un portrait noir, hein, quand même, du ministre de l'Intérieur, équilibrer la balance, on peut dire c'est un sans-faute sur ces manifestations. Il n'y a pas eu de drame sur l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, qui a été une épine dans le pied de bon nombre de gouvernements avant, François Ernenwein.
Techniquement, il n'y a pas de gros reproches à lui faire. Le débat porte plutôt sur sa capacité aux yeux des policiers d'incarner ce qu'a porté Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy. Mais après, je m'interroge quand même sur sa sortie là, à propos de la journée de samedi.
La passivité des manifestants oui, voilà. En face aux
ça,
casseurs.
Ça, c'est plus inquiétant. Et c'est assez grave qu'un ministre de l'Intérieur exprime à ce point-là ce qui est peut-être son rêve secret, d'avoir en France 60 millions de policiers. Et ça, je pense que c'est les limites de l'exercice rhétorique et sécuritaire, c'est-à-dire on en rajoute toujours une couche, les citoyens eux-mêmes doivent s'engager sur les questions de sécurité, c'est du régalien, ça a été dit tout à l'heure, et on attend que le régalien soit correctement assumé par ceux qui en ont la charge.
Brigitte Boucher, dernière question, est-ce que le président peut se séparer de son fidèle grognard, de la première équipe
Gérard Collomb, c'est vraiment le soutien de la première heure. Hein. C'est lui qui l'a vraiment aidé à constituer tout son réseau, son réseau politique pour en arriver là. Il lui doit beaucoup. Il lui a confié un ministère très important, le ministère de l'Intérieur. Mais bon, effectivement, à un moment, il pourra toujours jouer le rôle de fusible. Hein. C'est certain. Il y a pas s'accrocher à son poste pendant des années. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Et Gérard Collomb, c'est vrai que ces dernières semaines, il a pu diviser un peu, et aussi la majorité. Il y a eu cette loi asile et immigration, la circulaire Collomb qui a été très contestée dans les rangs même de la majorité. Il a aussi contesté cette femme de l'UNEF, responsable de l'UNEF voilée. Tout le monde n'était pas d'accord au sein de La République En Marche. Et puis le fameux joker qu'il a sorti sur les 80 km/h a fait un petit couac aussi au niveau du gouvernement.
Comme le temps tourne, hein, l'horloge nous indique qu'il faut avancer dans le débat. On va passer au débat concernant, eh bien, il y a 50 ans, c'était jour pour jour, les accords de Grenelle. Alors, on rappelle, hein, pour les plus jeunes, mai 68, ça commence dans les universités, il y a des barricades, et puis il y a surtout une France qui est paralysée, les usines qui n'avancent plus, qui sont fermées. Une négociation est entreprise par le Premier ministre, Georges Pompidou, avec ses fidèles lieutenants, Jacques Chirac. Édouard Balladur qui négocie avec les syndicats, avec les partenaires sociaux, et puis on débouche sur des augmentations de salaire, sur des engagements au droit syndical dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les accords de Grenelle. Est-ce que cette méthode Grenelle existe toujours, Hervé Gauthier? Parce qu'on parle sans arrêt du Grenelle, d'un Grenelle social, d'un Grenelle de l'environnement. Il y a toujours le mot Grenelle qui revient.
Je crois déjà qu'on peut pas forcément parler de méthode. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, les gens, les accords de Grenelle, ça s'est fait dans l'urgence. Il y avait effectivement le conflit social dont vous parliez à l'instant, qui était majeur. La France était totalement paralysée. C'était extrêmement difficile, même de trouver de l'essence. Enfin, voilà. Donc il y avait une véritable urgence. Et puis c'est vrai aussi qu'on était dans un contexte économique et social où il y avait une forme quand même de légitimité dans la revendication. Il y avait une forme de décrochage entre cette France qui profitait des Trente Glorieuses et puis une autre France ouvrière qui avait beaucoup plus de mal. Donc il y a eu ces accords de Grenelle, hein, vous l'avez rappelé, 35% d'augmentation du SMIG, 10% d'augmentation des salaires, réduction du temps de travail, etc. Et ce qui était intéressant, et c'est là que la comparaison peut commencer à se faire, c'était qu'on avait vraiment un dialogue tripartite entre le gouvernement, toutes les organisations syndicales et les organisations patronales avec le CNPF à l'époque. Alors, si on veut comparer aujourd'hui, on va dire que la méthode a complètement changé. C'est-à-dire que on avait les syndicats sur les accords de Grenelle qui venaient porter des revendications autour desquelles tout le monde a discuté. Là, c'est l'inverse. C'est le gouvernement qui est à la décision, qui porte les dossiers et qui dit aux syndicats c'est de ça dont on veut discuter et c'est là-dessus qu'on attend que vous nous serviez un peu de conseiller technique et que vous amendiez nos propositions. C'est radicalement différent.
Ce qui est important avec les accords de Grenelle de 68, c'est qu'on donne le pouvoir aux syndicats de négocier des conventions collectives dans les entreprises, dans les branches. C'est ça la grande avancée.
Ça a ouvert un horizon, et dans la représentation qu'on a des accords de Grenelle, on a donné une place aux travailleurs beaucoup plus grande dans le dialogue social qu'avant. On sortait d'une ère, en forçant le trait Zola, à autre chose.
Oui, justement.
Et ça a été un moment extrêmement important. C'était une avancée des droits sociaux, des rattrapages salariaux. On était dans les Trente Glorieuses, ça avait du sens à l'époque. Comparaison n'est pas raison, je terminerai là-dessus, juste pour dire qu'il y avait 11 millions de grévistes et le rapport de force était singulièrement différent. On ne peut pas répéter les choses, alors qu'on vient de dire tout à l'heure que le pôle de contestation au gouvernement actuel et au président Macron est faible, alors qu'à l'époque, un véritable rapport de force a conduit le patronat à faire un certain nombre de concessions. C'est plus dans l'air du temps aujourd'hui.
La CGT est extrêmement forte, hein, on se rappelle le Billancourt.
Et puis au général de Gaulle de partir, de revenir et de proposer des élections. On va y revenir dans un instant, car il est 20h40 sur France Info. L'essentiel de l'info, c'est avec vous, Romain Desailles.
L'Italie n'aura pas de gouvernement avant plusieurs semaines. Giuseppe Conte, choisi par la Ligue et le mouvement 5 étoiles, jette l'éponge. Sa rencontre avec le président italien, qui doit approuver le gouvernement, n'a pas été productive. Ce qui coince, c'est notamment la nomination de Paolo Savona au ministère des Finances, un économiste hostile envers l'euro et l'Europe. La vidéo a déjà plus de 3 millions de vues sur Internet, celle d'un homme qui escalade la façade d'un immeuble à Paris à main nue pour secourir un enfant suspendu à un balcon. Eh bien, ce héros s'appelle Mamoudou Gassama, il est malien, il n'a pas de papier. La maire de Paris, Anne Hidalgo, lui adresse un grand bravo et promet de le soutenir afin d'être régularisé. L'éclatement d'un pneu, voilà l'hypothèse avancée par les enquêteurs pour expliquer l'accident de car qui a tué 3 personnes hier dans la Drôme. Sur l'autoroute A7, les passagers ont entendu une explosion juste avant le drame. Montpellier vient d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du handball français. Les Héraultais remportent leur deuxième Ligue des Champions après celle de 2003, un succès aux dépens de Nantes, 32-26. Et puis la police britannique va lancer une enquête. Le gardien de Liverpool, fautif sur 2 buts hier en finale de la Ligue des Champions de football, fait l'objet de menaces de mort sur lui, sur sa famille. Loris Karius a pourtant réitéré ses messages d'excuses. « Je n'en dors plus », a-t-il confié sur Twitter.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Allez, il y a quelques instants, François Hanenwein, on parlait avec vous de ces accords de Grenelle, de la méthode, de ce qui a avancé dans le rapport syndicat, patron, dans l'entreprise. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Le Goff, sociologue. Il était l'invité de France Info tout à l'heure et il souligne que cette crise de 68 va déboucher un peu plus tard sur une modification de l'organisation du travail en entreprise.
Les revendications plus qualitatives étaient portées par le syndicat minoritaire de l'époque, qui était la CFDT. Elles portaient en particulier sur les conditions de travail, en sachant qu'il y avait un élément nouveau, c'est-à-dire des catégories de jeunes ouvriers et ouvrières, dans des conditions de travail, de pénibilité de travail qu'on a oubliées. Ça va déboucher des années après, par exemple sur le rapport Sudreau en 1975, qui pose le problème des conditions de travail et qui pose le problème de la crise du taylorisme.
Voilà, Hervé Gauthier, 68, ces accords, c'est une première étape dans le rapport de force dans l'entreprise, mais après, dans l'organisation du travail dans l'entreprise.
Oui, c'est ça, oui.
Avant, c'était le travail à la chaîne, on peut le dire.
Oui, oui.
Bête et méchant.
Oui, tout à fait. Ça a été vraiment le point de départ. D'ailleurs, enfin, c'est un peu le maître étalon du dialogue social, même si encore une fois, c'était dans un contexte bien particulier. On parle du Grenelle à tout bout de champ maintenant, même du Grenelle de l'environnement, parce que c'était effectivement, ça avait un caractère exemplaire et que ça actait effectivement le début d'une ère moderne, on va dire, d'une relation au travail et d'une relation à l'entreprise, et notamment, vous le disiez tout à l'heure, avec les conventions collectives sur lesquelles maintenant, enfin, beaucoup de salariés sont couverts par des conventions collectives ou par des accords de branche.
Brigitte Boucher, là.
Il y a une grosse différence entre le poids syndical de l'époque et le poids syndical aujourd'hui. C'est vrai que la représentation syndicale est beaucoup moins forte et pèse beaucoup moins. Alors, c'est vrai qu'il y avait, vous le disiez, plus de 10 millions de grévistes au moment de mai 68, et il y en a quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers aujourd'hui dans la rue. Donc le parallèle est quand même très, très difficile à faire, je crois. Cela dit, il y a des parallèles possibles parce qu'il y a une division syndicale aujourd'hui, il y en avait une à l'époque. Il y avait aussi des syndicalistes qui étaient dépassés par leur base. On l'a vu avec la CGT, ça peut être le cas aujourd'hui. Jean-Claude Mailly, par exemple, défendait les ordonnances contre la loi travail, et puis sa base, pas du tout. Et Pascal Pavageau n'est pas du tout sur cette même ligne. Et puis, on avait un gouvernement à l'époque qui appliquait les mesures sans forcément qu'il y ait d'accord conclu. Et c'est le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron, il n'a pas le syndicalisme dans son histoire personnelle, oui. Et chevillé au corps, effectivement. Donc, lui, il est très respectueux trop respectueux peut-être de la Ve République, avec un président qui décide, avec des contre-pouvoirs qui peuvent être parfois plus accessoires qu'à l'époque. Et c'est vrai qu'il traite pas forcément très bien la CFDT, alors que sous François Hollande, on pouvait pas imaginer qu'il y ait une réforme qui passe sans que le leader de la CFDT ait été prévenu avant.
Alexandre Devecchio.
Non, c'est une époque bien sympathique, mais radicalement différente de la nôtre. Déjà, on note qu'il y avait un banquier à Matignon, mais je crois que c'était un banquier qui visiblement savait entendre les revendications sociales et un patronat aussi
choix,
qui était sans doute totalement différent. C'était pas un capitalisme financiarisé, c'est pas un capitalisme managérial, c'était pas un capitalisme mondialisé. Aujourd'hui, on sait qu'on peut délocaliser et que les ouvriers, le rapport de force, s'il est très différent aussi, c'est parce que justement ce capitalisme a muté et qu'on peut délocaliser une usine, ubériser le travail. Toute la question est de savoir aujourd'hui si c'est l'économie qui va reprendre, enfin si c'est la politique qui va reprendre le dessus, être capable d'apporter de nouvelles protections, ou si c'est l'économie qui va continuer à dicter sa loi à la politique.
Oui, Brigitte avait raison de le rappeler. Je pense qu'entre les deux positions, celle des accords de Grenelle et de cette époque et celle d'aujourd'hui, il y avait cette position intermédiaire qui a été celle qu'on a connue quand même pendant des années, où effectivement on confiait un dossier à traiter aux partenaires sociaux, charge à eux de trouver la meilleure solution, qui était ensuite avalisée par le gouvernement, quitte à ce que le gouvernement, s'il n'y avait pas d'accord, prenne le relais. Bon. Là-dessus, Emmanuel Macron et son gouvernement ont renoncé à cette manière de fonctionner. Maintenant, on peut trouver ça critiquable, on peut trouver qu'effectivement ça manque de dialogue social. En attendant, ça marche, puisqu'il y a eu quand même la loi travail, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle. Tout ça, ça a plutôt fonctionné. Après, on peut effectivement trouver que le dialogue social a été quand même assez sacrifié à une forme d'efficacité.
Ce qui est amusant quand même, c'est qu'à l'époque, quand on faisait un Grenelle, c'était pour qu'il y ait 30% d'augmentation des salaires. Aujourd'hui, toutes les réformes qui sont faites les unes après les autres, dans un cadre européen, sont là pour apporter plutôt des régressions sociales que du progrès social.
Non, il y a effectivement la question, est-ce que les réformes doivent être, même en régime de moins grande croissance, forcément punitive? Est-ce que, sur le plan de la méthode, il faut aussi poser la question, quand vous avez l'ambition de réformer, c'est peut-être pas une mauvaise méthode de chercher à associer en profondeur les gens à qui s'adresse cette réforme pour conduire le changement. Or, la particularité de la méthode mise en œuvre par Emmanuel Macron, ce n'est pas du dialogue social, il y a de la concertation, ça a été dit comme ça, et on voit bien que la limite de l'exercice, parce que dès que ça se cabre un peu, je prends l'exemple de la dette sur la SNCF, les annonces sont venues beaucoup plus tôt que la reprise de la dette de la SNCF, les annonces sont venues beaucoup plus tôt par rapport à ce que le gouvernement imaginait. Le gouvernement imaginait qu'il ferait ce geste-là à partir du moment où les syndicats auraient montré beaucoup de bonne volonté dans la discussion sur la réforme de la SNCF. Or, sous la pression, malgré tout, il a été obligé d'annoncer la reprise des 35 milliards.
Un dernier mot, Brigitte.
Je me demande s'il n'y a pas une toute petite chose qui est en train de changer. Quand on voit que la CFDT et l'UNSA sont quand même intervenus assez massivement pour aider les sénateurs à rédiger quelques amendements pour modifier le projet de loi au Sénat. Il a été modifié en commission.
Donc ça ne se fait plus via le gouvernement, mais ça se fait d'une autre façon transversale.
Voilà, via le Parlement. Et là, on voit bien que la CFDT et l'UNSA ont joué un rôle majeur et que le gouvernement a laissé faire.
Ouais, enfin, on attend de voir ce que ça va donner. Hein. Quand même, à l'Assemblée nationale, ils avaient déjà fait une quarantaine de propositions, il n'y a eu que 3 amendements qui ont été retenus. Alors.
Comme on va parler des grands noms de la radio dans un instant, de la disparition de Pierre Bellemare, c'est un prétexte. Rapidement, un petit tour de table. Un souvenir de radio, un nom de radio, Alexandre Devecchio, comme ça.
Philippe Bouvard.
Une voix de radio.
Hervé Gauthier. Les grosses têtes.
Ah ben non, mais moi, c'est Pierre Bellemare. Ouais, mais c'est les histoires extraordinaires. J'écoutais ça quand j'étais gamin. C'était,
François Arnenwein, un souvenir de radio.
Moi, j'écoute beaucoup la radio. C'est une ambiance. Elle m'accompagne tout le temps. C'est formidable.
Brigitte Boucher.
Moi, j'irais Philippe Bouvard aussi, qui nous a accompagnés pendant des années.
Et voilà, ouais. Et le tribunal des flagrants délires. Sur France Inter. Formidable, ça.
Sur France Inter, avec Claude Villiers, avec
Pierre Desproges.
Pierre Desproges, Louis Rego. Voilà. Ouais. Je cherchais les noms. Ah, ben, on va parler de la radio, tiens, dans un instant, de ces voix radio qui nous accompagnent. Il est 20h50 sur France Info. L'info, l'essentiel de l'info, avec vous, Romain Desac.
Un peu moins de perturbations sur vos trajets SNCF ce soir et surtout demain pour le début du 12e épisode de grève. Comptez 2 TGV sur 3, 2 Intercités sur 5, 3 Transiliens sur 5 et 1 TER sur 2. La plus ancienne détenue de France bénéficie de la première grâce présidentielle du quinquennat Macron. Condamnée à perpétuité pour le meurtre d'un homme en 88, cette femme de 74 ans est en unité psychiatrique depuis 20 ans avec des conditions extrêmement strictes. Avec cette grâce,
partielle. Elle pourrait obtenir des permissions de sortie et participer à des activités avec d'autres détenus. Les publicités à destination des enfants sur les produits trop gras, trop sucrés, trop salés ne seront pas interdites ou limitées en France. C'était pourtant la volonté de certains députés, tous bords confondus. Mais l'Assemblée a rejeté aujourd'hui cette interdiction, tout comme l'application du Nutri-Score. Certains élus ont insisté sur la responsabilisation des parents. Pour la première fois en Colombie, les bureaux de vote ne sont pas déplacés pour raisons de sécurité. Les électeurs doivent élire leur président sans la menace des guérilleros FARC. L'enjeu de ce scrutin, c'est le maintien de la paix entre le pays et l'ancienne rébellion. Le foot et la remontée de Grenoble en Ligue 2. Les Isérois sortent vainqueurs de leur barrage contre Bourg-en-Bresse qui descend en National. Et puis la joie des handballeurs montpelliérains. Ils viennent de remporter la deuxième Ligue des champions de leur histoire 15 ans après la première. Montpellier s'est défait de Nantes en finale 32 à 26.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Et dans ces informés, il y a quelques instants, on parlait des accords de Grenelle, mai 68. D'abord, on va rester dans nos années 60, 70. À l'époque, il y a quatre grandes radios nationales, trois chaînes de télévision, des animateurs, des journalistes radio qui captent chaque jour des dizaines de millions d'auditeurs. Et parmi eux, eh bien, vous allez reconnaître ces voix, forcément.
Le 31 août 1833, l'équipage de la Victoire, un brick anglais chargé de houille, affronte une violente tempête en mer du Nord au large de Lincolnshire, un comté d'Angleterre. Les huit marins à bord sont rapidement dépassés par les événements. Ils perdent le contrôle de leur voilier à deux mâts et assistent impuissants à son naufrage.
Radioscopie.
Yves Montand.
Jacques Chancel. Je suis persuadé que vous êtes trop jeune pour cela. Mais vous n'avez pas changé. Toujours la même émotion lorsque vous savez qu'il y a des choses à dire. Et vous les dites depuis longtemps. Yves Montand, que de chansons, que de... Pas encore à l'heure du bilan, et je filme, quelle vie, quelle trajectoire.
Ah voilà, vous avez reconnu donc les voix de Pierre Bellemare, les voix de Jacques Chancel, grande voix radio. Il y a, on peut citer aussi Gérard Cyr, Jean-Christophe Averti, André Arnault, Frédéric Potcher, Macha Béranger, Jean-Louis Foulquier. Il y en a plein de noms comme ça, d'hommes et de femmes qui nous ont accompagnés. Des voix qui évoquent des émotions, des souvenirs, des images où on avait besoin de faire travailler notre imagination à l'époque, Alexandre Vecchio.
Ouais,
c'est
ouais.
Ça la radio.
Ouais, non, mais une diction superbe, une voix envoûtante et un ton, je crois. Peut-être ce qui change, et ça, c'est pas propre à la radio, c'est un mélange de culture et d'irrévérence qui était propre à l'époque et qu'on perd peut-être aujourd'hui dans un monde de plus en plus uniformisé.
Le pouvoir de la radio.
Moi, ce qui me frappe là, à travers ce qu'on vient d'entendre, c'est l'extrême bienveillance des intervieweurs. C'est-à-dire, ils se mettent dans la proximité de la personne qu'ils reçoivent.
Et on a perdu ça aujourd'hui.
Bah,
c'est agressif un petit peu sur tous les plateaux.
Qui est une forme rhétorique possible aussi, mais ça a changé le ton des entretiens, etc. Là, c'était presque chaque fois des déclarations d'amour à la personne reçue. C'est assez émouvant.
Je voudrais vous soumettre cette petite phrase d'Orson Welles, hein, le réalisateur de Citizen Kane, surtout de La Guerre des Mondes, feuilleton radiophonique. 1938, il déclarait à la radio « L'écran est encore plus grand qu'au cinéma ». Hervé Gauthier.
Oui, moi je trouve ça tout à fait juste. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comme au fil des ans, l'écriture radio a changé, notamment dans le secteur qui nous occupe, celui du journalisme, où les reportages maintenant se font avec beaucoup de son ambiance. On a de plus en plus des reporters qui vont directement au contact des gens qui sont en train d'interviewer, et on va dire sans filtre et sans montage. C'est très en relief, finalement, la radio. Et puis, je pense qu'effectivement, ça conserve cette magie du fait que ça peut nous accompagner partout. On peut faire d'autres choses en même temps, on peut l'écouter...
Mais on écoute la radio différemment aujourd'hui, parce qu'il y a le podcast. Marchant. On l'écoute différemment, la radio.
Oui,
on,
alors, mais ça, je pense
on
que
ne
c'est,
la subit plus.
Je pense que ça, c'est l'évolution. Ça, c'est l'évolution. On a parlé du poids d'Internet, hein, qui est de plus en plus fort. C'est-à-dire que maintenant, on parle peut-être de moins en moins de supports, radio, télévision, Internet, et de plus en plus de formats. De formats où on peut écouter la radio en podcast sur son smartphone avec Internet. On peut regarder aussi la télévision de manière mobile. Et je pense que c'est surtout les formats qui évoluent en télévision, par exemple. Là, on est sur France Info Télé. télé,
médias global, radio, télé, web.
On a créé des formats justement d'écriture spécifiques pour pouvoir regarder les reportages et à la télé et sur le smartphone.
François Hernandez.
Moi, je voudrais dire mon amour de la radio. C'est un très grand et très beau
média. Allez-y, je suis d'accord avec vous.
Je ressemble aux Français. On fait un baromètre de la confiance dans les médias. Et depuis des années, la radio arrive en tête. Elle est jugée la plus crédible en matière d'information par les Français. C'est une ressource formidable. La radio, ça a été dit à l'instant, elle est partout, elle se transforme. Podcast, etc.
Je vais être obligée de contrebalancer tout ça, parce que là, moi, je suis une femme de télévision, j'ai un DLCP, j'adore la radio, mais le média préféré des Français, c'est la télévision.
Absolument.
Même si, effectivement, Quentin nous dit que le plus crédible, le plus confiance, voilà, poids des mots, choc des photos, choc des images aussi. Non, juste pour rendre quand même un hommage à Pierre Bellemare, parce que c'était une voix exceptionnelle. Je crois que quand on tombait sur lui à la radio, on était obligés de poursuivre, parce qu'on avait, cette voix envoûtante qui vous emmenait, qui vous prenait par la main, et on avait juste envie d'écouter la fin de l'histoire. C'était effectivement une grande voix qui va
pas
manquer.
Pas clore notre polémique, mais la radio fait travailler l'imaginaire.
Il y a du fantasme, effectivement.
Qui se répand, qui ouvre sur des mondes, c'est formidable.
Je pense que pour rendre hommage à Pierre Bellemare aussi, il y a aussi aujourd'hui des gens qui sont prêts à prendre la relève dans ce côté à la fois culture de qualité et populaire. Moi, je pense par exemple à quelqu'un comme Stéphane Bern, qui a cette espèce d'enthousiasme, qui a cette culture, qui a ce respect du public et qui est très populaire. Je pense qu'il y a des gens pour prendre la relève de fortes personnalités comme Pierre Bellemare.
Alors, comme on arrive dans les dernières minutes, dans la dernière minute de cette émission, on fait un tour de table rapide en vous remerciant Alexandre Devecchio. Demain, Le Figaro, dans les kiosques, vous avez une idée de la une ?
Pas du tout.
Hervé Gauthier,
la semaine de l'écho, sur France Info. Télé, Canal 27, 7h10, 8h20, ce sera l'argent de Roland-Garros.
Brigitte Boucher,
alors
LCP,
je recevrai Yannick Jadot demain à 9h sur LCP.
François Hanenwein, la une de la Croix.
La une de la Croix est consacrée à la culture dans les régions avec une interview Françoise Nyssen. Et cette enquête durera pendant plusieurs semaines.
Un grand merci à vous quatre. Merci à la réalisation également d'André Yanos, Virginie Lorda, et à l'édition Joachim Dauphin. Demain, 8h30, l'invité politique Toussaint Apathy sur France Info, Radio-Télé. Ce sera Alexis Corbière. Bonne soirée.